Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen! Alléluia! La vérité vous affranchira. C'est ça que Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 31. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors donc, forcément, si c'est la vérité qui peut nous libérer, on peut dire que la manque de la vérité ou les mensonges peuvent faire le contraire, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent pas la vérité sont toujours en prison. Ceux qui ont cru en mensonges sont vraiment devenus esclaves à ces mensonges. Mais Jésus est venu dans le but de nous libérer, de nous donner une vie abondante, de nous donner la vie éternelle. Et combien de vous êtes contents de connaître Jésus ce matin? Mais savez-vous qu'on a besoin ce matin de voir quelque chose tellement, tellement important. On va parler de quelque chose. En fait, on va répondre à une question. Jésus-Christ est-il vraiment le Fils de Dieu? Combien de vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus. C'est difficile à ne pas croire que Jésus a existé comme un être humain. Parce que comme on a vu il y a quelques semaines, même l'histoire, même les gens qui n'aimaient pas Jésus, même les ennemis de Jésus-Christ, ils ont écrit des choses, ils ont confirmé que Jésus a vraiment vécu, qu'il a été vraiment crucifié, les miracles et les prodiges qu'il faisait, il y avait beaucoup de choses que même les ennemis de Jésus ont avoué que c'était le cas. Quand il faisait les miracles, c'est sûr qu'ils n'ont pas dit oh, « il fait les miracles parce qu'il est Dieu », mais ils disaient qu'il fait les miracles par le prince des démons. Il chasse les démons par le prince des démons. Mais, donc, vois-tu que l'existence de Jésus-Christ en tant qu'homme, on ne peut pas nier ça sans être vraiment, vraiment, vraiment dans un état où on ferme les yeux à la réalité et on ferme les yeux à la vérité. Jésus a existé comme homme. C'est officiel. Amen. Mais le problème est, comme on a vu dans les quelques semaines précédentes, les choses, les mensonges, on pourrait dire, du Code Da Vinci, parce qu'on a dit que ça tombait bien, le film et le livre du Code Da Vinci, qui était vraiment un best-seller, était pas mal répandu dans cette province, et le film était actuellement en train de jouer dans les théâtres, et on a dit que ça serait bien pour nous, en tant qu'Église, en tant que chrétienne, d'être bien armés, au cas où que vous rencontrez des personnes qui ont cru à ces mensonges, qui ont été séduits par ces choses, que vous savez quoi répondre et quoi dire. Mais dans son livre, le livre de M. Dan Brown, il a dit ici, c'est dans vos notes, dans le Code Da Vinci, c'est marqué que Jésus était perçu et connu par ses disciples comme un simple mortel. C'est ça qu'il disait, que dans le fond, dans son livre, il disait que Jésus était toujours conçu et considéré d'être juste un homme, un mortel, par les premiers disciples. Et ce n'était pas avant le conseil de Nicée, en 3995, que Constantin et les autres ont décidé de faire en sorte que Jésus soit considéré dorénavant Dieu. Ce qui est complètement faux, qui est complètement ridicule. Et aujourd'hui, on va voir jusqu'à quel point c'est ridicule de dire une chose de même ou de croire une chose de même. Jésus est Dieu. Jésus a toujours été considéré comme étant Dieu par ses disciples. Et on va voir cela dans quelques minutes. Mais c'est bien important parce que le Fils de Dieu est venu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes en vie aujourd'hui et nous avons la vie éternelle aujourd'hui grâce à lui, n'est-ce pas? Mais premièrement, juste pour commencer ce matin, dans vos notes, regardons, on va voir plusieurs sources qui ont confirmé la divinité de Jésus-Christ, qu'il était vraiment Dieu. C'est pas juste un homme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, combien de vous avez entendu les gens dire, mais moi, je crois en Jésus, mais je suis pas sûr et certain qu'il est vraiment Dieu. Ou il y a des gens qui vont dire que peut-être il est Dieu, mais peut-être il n'est pas le seul Dieu. Peut-être Jésus, c'est correct pour quelques-uns, mais qui sommes-nous pour dire que Jésus n'est pas bon pour nous, mais Mohamed est bon pour les autres, et Bouddha, c'est bon pour les autres? Combien de vous avez entendu les choses de même? Et aujourd'hui, on va voir que ce genre de raisonnement ne marche pas et ne pourrait jamais marcher. Première chose qu'on voit dans vos notes, c'est que les prophètes confirmaient la divinité du Messie. Vous savez, on a parlé de cela la semaine passée, que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui ont été prédites, des choses qui ont été prophétisées, et que maintenant, on voit la réalisation, on voit l'accomplissement de ces prophéties. Il y en a tellement que juste cela, ça prouve l'origine de ce livre, que tous ceux et celles qui ont prophétisé, qui ont écrit ces choses, étaient vraiment poussés par l'Esprit de les dire. C'est des choses qui viennent de Dieu. Et ces prophètes ont dit tellement de choses concernant, quand je parle de l'Ancien Testament, les prophètes ont prédit tellement de choses concernant le Sauveur, concernant le Messie, celui qui allait venir pour sauver Israël. Et toutes les choses qu'ils ont dit ont confirmé que cet homme qui allait venir comme Sauveur, comme Messie, c'était pas juste un simple homme, mais ils ont confirmé que c'était Dieu dans la chair. On voit cela dans Matthieu chapitre 1, verset 22, en fait, que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc, on voit que ici, ils vont citer le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit en Ésaïe chapitre 7 et verset 14? Et ici, il va citer, qu'est-ce qu'il a dit? Voici la prophétie. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Donc, les Juifs savaient que quand le Messie allait venir, qu'il serait Dieu dans la chair, qu'il serait Dieu. Pas juste un homme puissant, pas juste un homme qui avait beaucoup de pouvoir, d'influence, mais il savait qu'il serait Dieu. Donc, on voit cela. Il y a un autre verset en Ésaïe, chapitre 9, verset 6, dans vos notes. Le prophète a dit ceci, « Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. » N'est-ce pas intéressant, ce langage? Un enfant est né, mais un fils est donné. Pourquoi? Parce que Jésus avait un commencement en tant qu'homme. Un enfant est né d'une vierge. Mais le Fils de Dieu a toujours existé dès l'éternité. Il n'a pas de commencement, il a toujours existé avec le Père, et le Fils de Dieu qui a toujours existé a été donné à la race humaine comme un sacrifice et comme un sauveur. N'est-ce pas merveilleux? Donc, on sait que Jésus n'avait pas de commencement comme Dieu, mais il avait un commencement en tant qu'homme. Il était 100% Dieu et 100% homme. Une seule personne avec deux natures, une nature divine, mais une nature humaine aussi. N'est-ce pas merveilleux? Mais il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Tout le monde dit Dieu puissant. Alléluia. Père éternel et prince de la paix. Donc Jésus est appelé ici même le Dieu puissant. Et pas juste un petit peu puissant, mais le Dieu tout puissant. Donc, voyez-vous jusqu'à quel point il est dangereux pour un homme de dire que les disciples ont considéré, ils ont toujours conçu que Jésus n'était qu'un simple mortel. C'est un blasphème, n'est-ce pas? C'est très sérieux de dire que Jésus n'était pas Dieu. Jésus était Dieu, Jésus est Dieu, et Jésus sera toujours Dieu. Tout-puissant, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Puis, les prophètes confirmaient la divinité du Messie, mais aussi, deuxième chose, les apôtres, malgré qu'est-ce que le Code da Vinci dit, les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament confirmaient la divinité de Jésus-Christ. Et ils faisaient ça régulièrement, souvent, et avec beaucoup, beaucoup de force. Ils ont témoigné de la divinité de Jésus-Christ. L'apôtre Jean, il a écrit en Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » C'est là où beaucoup des gens vont attaquer Jésus. Même si on regarde aujourd'hui à certaines sectes qui existent. On peut nommer certaines sectes même. C'est pas parce qu'on est contre eux, mais qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est pas correct. Mais les témoins de Jéhovah, par exemple, ils vont enseigner, ils ont changé ce verset dans leur version de la Bible. Ils ont ajouté juste un petit mot. Ils vont dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Donc, ils vont dire que Jésus était le premier Dieu créé par le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai, c'est que Jésus a toujours existé. Le Fils de Dieu a toujours existé auprès du Père. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est encore Dieu aujourd'hui. C'est important. Voulez-vous savoir si quelqu'un est sur la bonne track ou non, si quelqu'un est vraiment dans un secte, posez-le la question concernant Jésus. Posez-le la question, qui est Jésus pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui vont dire que je crois en Jésus-Christ. On croit en Jésus. Mais pose-leur la question, mais pour toi, qui est Jésus? Et s'ils disent, mais il est un Dieu, il était un bon prophète, il est ceci et cela. Mais s'ils ne sont pas prêts à avouer que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant, la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait chair, là on sait qu'ils sont dans l'erreur. Amen. Regarde bien, l'apôtre Jean a écrit cela, mais regarde bien les autres disciples. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon quoi? Dieu. Quand il a vu Jésus ressuscité, malgré ses doutes, malgré tous les doutes qu'il avait avant de voir Jésus, quand il a vu, il a dit tout de suite, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il n'a pas dit, « Oh, mon Seigneur et mon prophète. »« Mon Seigneur et mon enseignant moral. » Il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Colossiens chapitre 1, regardons qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Colossiens 1, 15, en parlant de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Mais là, c'est là où les gens vont dire, tu vois, c'est la première chose que Dieu a créée, non? C'est le premier né de toute la création, mais là, il fait une référence, c'est la première personne, Jésus-Christ, c'est le premier homme qui fut né de nouveau. Comment ça? Parce que quand Jésus était sur la croix, et quand il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus fut séparé d'avec le Père, la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, on sait que même plus tard, si on lit ce verset, regardons, le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, quand Jésus est appelé ailleurs même, le premier né d'entre les morts, on sait que Jésus, c'est pas le premier homme qui fut ressuscité des morts, parce que Lazare a été ressuscité des morts aussi, n'est-ce pas? On voit plusieurs personnes, même dans l'Ancien Testament, qui ont été ressuscitées des morts. Mais Jésus, c'est le premier homme qui fut séparé d'avec le Père, mais qui fut, on pourrait dire, ramené d'entre les morts spirituels, qui veut dire séparation d'avec Dieu. Le premier homme né de nouveau, le premier d'entre plusieurs frères, n'est-ce pas? Merveilleux de penser à ça. Mais en Hébreux chapitre 1, verset 8, regardons ceci. On parle de Jésus. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu! » Tout le monde dit, oh Dieu. C'est pas aux prophètes. C'est pas aux enseignants moraux. C'est mon Dieu. Ton trône, oh Dieu, est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, on sait que les apôtres, les écrivains du Nouveau Testament ont confirmé la divinité de Jésus-Christ. Voici quelque chose que je vais dire que vous allez peut-être trouver bizarre, mais c'est vrai que les démons confirmer la divinité de Jésus-Christ aussi. C'est sûr que normalement, on ne veut pas croire le témoignage d'un démon, mais regardons dans le contexte qu'est-ce qui s'est passé. Ici, en Luc chapitre 8, verset 28, il y avait un démoniaque qui, quand Jésus s'est approché et en vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? » Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je pense qu'on devrait avoir autant de bon sens qu'un démon, n'est-ce pas? Être capable de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Les puissances des ténèbres l'ont reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu. Parce que n'oubliez pas, les démons, les anges, qui sont entiers des anges qui ont été expulsés du ciel avec Satan, ils connaissaient le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Ils reconnaissaient le Fils de Dieu. Et ils ont vu la puissance de Dieu quand ils ont été tassés du ciel et jetés par terre. Ils savent que Dieu est tout-puissant. Ils savent que le Fils de Dieu est tout-puissant. Ils connaissent Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui est presque bizarre, c'est de voir que ces esprits méchants, les démons, ont reconnu le Fils de Dieu. Ils ont reconnu le Messie. Et ses propres, on peut dire le peuple de Dieu, ses propres peuples l'ont rejeté. Je pense qu'on devrait avoir aussi autant de bon sens que les démons et reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Regarde bien. Une autre confirmation, numéro 4 ici, c'est Jésus confirmait lui-même qu'il était Dieu. Même si on n'avait pas les prophètes, les apôtres, les démons qui criaient « Ah, c'est le Fils de Dieu », Jésus lui-même, dans ses propres paroles, a confirmé même des fois qu'il était Dieu dans la chair. Regardons juste un couple d'exemples, parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les exemples dans la parole de Dieu. Mais ici, en Jean chapitre 8, verset 56, Jésus parle avec les hommes religieux. Il dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Et Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Wow! « Je suis! » Savez-vous que les Juifs connaissaient bien cette expression « je suis » parce que c'est un des noms de Dieu. Parce que vous vous rappelez que Moïse, quand il était face à face avec Dieu, quand il a vu la manifestation de Dieu dans le buisson ardent, vous vous rappelez que quand il a posé la question, « Mais Seigneur, qui dirait qui m'a envoyé? Quand je vais aller voir le peuple en Égypte pour les faire sortir, » qu'est-ce que je vais leur dire? Salut, je m'appelle Moïse, on sort d'ici. Non, mais Dieu a dit non, tu vas leur dire que je suis t'a envoyé. J'aime ça. Dieu, il s'appelle je suis, pas j'étais, ou peut-être un jour je serai, mais je suis. Dieu ne change pas, il est encore Dieu aujourd'hui, il sera toujours Dieu. Amen. Et Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il connaissait cette expression. Et c'est pourquoi il voulait le tuer. N'est-ce pas? Regardons, il y a d'autres exemples de qu'est-ce que Jésus a dit. Marc chapitre 2, versets 5 à 7. Et n'oubliez pas que le Nouveau Testament est fiable. C'est un livre qui est très fiable au niveau de sa précision historique. Donc, si le Nouveau Testament dit que Jésus-Christ a dit ces choses, on sait que c'est fiable, on sait qu'il a vraiment dit ces choses. On a vu ça la semaine passée, si vous n'êtes pas là. Cherche la cassette ou va sur Internet et écoute le message. Marc 2, 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Ils ont bien raison. C'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus a bien pardonné les péchés, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a répondu. C'est quoi qui est le plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Mais pour que tu saches que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés, il a dit cela au paralytique. Lève-toi et marche, il fut guéri. Amen. Marc 14, 61. Quand Jésus était devant ses accusateurs, ils ont demandé clairement, ils ont posé la question, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? » Et Jésus répondit, « Je suis. » Amen. « Et vous verrez le Fils de l'homme assise à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et en fait, il est en train de faire référence à Daniel 7, chapitre 13, que vous pouvez lire plus tard. Donc, il connaissait ces versets et il s'allait enrager davantage d'entendre un homme dire qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit, mais ça c'est pour toi de savoir, pour moi de savoir et toi de deviner, non. Il a dit clairement, je suis. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 33 dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, vous voyez jusqu'à quel point il est ridicule pour un homme comme Dan Brown de dire dans son livre que Jésus était perçu et connu par ses disciples comme un simple mortel. C'est ridicule. Aucun fondement pour cette phrase. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est que les prophètes, les apôtres, les démons et Jésus lui-même ont tous confirmé la divinité de Jésus-Christ. Et en plus, je vais vous donner trois autres preuves que Jésus est le Fils de Dieu. Numéro un, est-ce que ça vous intéresse de les avoir? Numéro un, il a accompli de nombreuses prophéties messianiques qui ont été écrites des siècles en avance. Pas juste quelques-uns. J'aurais aimé avoir le temps de tout développer ce sujet des prophéties accomplies par Jésus, les prophéties messianiques. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Les choses que les psalmistes ont dit, les choses qui ont été écrites il y a des siècles avant la naissance de Jésus, les choses que Jésus a accomplies avec précision. Le lieu de sa naissance, le fait qu'il allait vivre dans certaines villes, toutes les choses, c'est incroyable combien des prophéties. En fait, il y avait un scientifique une fois qui a fait des calculs mathématiques et j'ai pas les chiffres devant moi, mais si je me rappelle, il a dit que si on prend toutes les prophéties messianiques et tous les accomplissements que Jésus a réalisés, qu'il y avait comme une chance d'un, je pense que c'est 10 au 4, comment est-ce qu'on dit ça, le 24th power, le 24e puissance, quand on a les exponentiellement parlant, c'est le chiffre 10, avec le numéro 24, c'est-à-dire 10 avec 24 zéros après, puissance 24, c'est ça. Une chance, un 10 en puissance 24, qu'un homme pourrait accomplir toutes ses prophéties. C'est-à-dire que la preuve est là. On va juste lire un exemple. Regardons ceci, c'est tellement bon. Quand on pense que ces choses ont été écrites des centaines d'années avant la crucifixion de Jésus. Regardons qu'est-ce que le psalmiste a dit en psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose que Jésus a dit à la croix? C'est des centaines d'années avant. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Vous vous rappelez que quand il y avait trois personnes crucifiées cette journée-là, et ils ont cassé les jambes des deux criminels à chaque côté de Jésus, mais arrivés à Jésus, ils étaient prêts à casser ses jambes, mais ils ont arrêté, ils ont dit non, il est déjà mort. Ils ont percé son côté, même. Tu comprends? Oh, mais ça, c'est juste coïncidence, n'est-ce pas? Je peux compter mes os. Regarde bien. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Avez-vous lu? Dans les évangiles, qu'est-ce que les soldats ont fait avec les vêtements de Jésus? Ils tirent au sort ma tunique. Laisse-moi vous dire. Lors des centaines d'années avant, sous l'inspiration de l'Esprit, quelqu'un est en train d'écrire cette prophétie. Mais Jésus, laisse-moi vous dire, Jésus n'avait plus aucun contrôle sur la situation quand il était cloué à la croix. Il ne pouvait pas dire aux soldats, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tirer au sort pour ma tunique? Pardon?
750 ans,
Isaïe. OK. 750 ans avant. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et ça, là, je vous donne un exemple. Il y a des, littéralement, des multitudes d'exemples comme ça, des prophéties que Jésus a accomplies parfaitement. Donc, pour moi, c'est une autre preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Numéro 2, on sait que Jésus a vécu une vie sans péché et qu'il opérait les miracles. Si vous vous rappelez, même la semaine passée, on a dit que les écrivains non-croyants ont écrit à propos de Jésus. Les historiens qui ne croyaient pas forcément qu'il était Dieu ont écrit qu'il avait un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui vivait une vie pieuse, n'est-ce pas? Ils ont dit cela à propos de Jésus parce qu'il était reconnu comme un homme pieux. Et là, en fait, même, je trouve ça bien intéressant, Marc 14, 55, que même ses ennemis ne trouvaient pas de quelque chose en lui pour le condamner. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Pilate a dit, je ne trouve pas un problème avec cet homme, il est innocent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il était innocent, il était parfait. Et ça touche mon cœur davantage. Quand je pense à la réalité que celui qui était, qui est et qui va venir, celui qui partageait la gloire du Père, avec le Père, avant la création du monde, avant la fondation du monde, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, il est devenu un homme. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait une seule chose de mauvaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire la même chose? Non. Nous sommes tous les pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous étions les pécheurs, mais grâce à lui, nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Amen. Merci, Seigneur.
Mais combien l'amour de Dieu est grand que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. 1 Pierre 2, 22 dit, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Jean chapitre 20, verset 30, on dit qu'il était un homme sans péché, il opérait des miracles. Regardons ceci, Jean 20, 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Comprenez-vous, vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. N'est-ce pas merveilleux? Plus tard, l'apôtre Jean va dire à la fin de l'évangile de Jean que Jésus a fait tellement de choses que tous les livres du monde ne pourraient pas contenir toutes les bonnes choses qu'il a faites. Tous les miracles qu'il a accomplis. Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, finalement, une troisième raison pour laquelle je crois fermement que Jésus est le Fils de Dieu, il a prédit et accompli sa résurrection. Ça, c'est la plus grande chose. Marc 9, 31, car il a enseigné ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Donc, regarde bien. C'est une chose qu'il savait, et une chose qu'il disait et qu'il enseignait à ses disciples. Ses disciples étaient lents à comprendre, bien entendu, parce que même après la résurrection, il y a bien de ses disciples qui ne croyaient même pas avant de le voir. Mais quand même, on voit que Jésus, il savait, il a prédit, et par la suite, il a accompli. Exactement comme il a dit. Il fut livré aux hommes pécheurs, il a été crucifié, trois jours après, ressuscité. Exactement comme il a dit. Laisse-moi vous dire, ça prend Dieu pour faire une chose de même. Même si j'aimerais faire croire à tout le monde que je suis Dieu. Même si je commençais à dire, mais tu sais, dans quelques jours, quelqu'un va me tuer, puis trois jours après, je vais me ressusciter. Je ne serais pas capable de le faire. Comprendre, donc des personnes qui disent « Jésus était vraiment rusé, il a vraiment séduit le peuple. » Ouais, il est tout un magicien, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, regardons ceci. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Ça, c'est important, souligner cette phrase « selon les Écritures. » Parce qu'encore, ces choses ont été prédites, ces choses ont été prophétisées. « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. » C'est quoi la prochaine phrase? selon les Écritures. Tout le monde dit selon les Écritures. Toutes ces choses ont été écrites. Jésus l'a dit lui-même. Et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Pas 500 personnes qui avaient une vision dans la nuit. Pas 500 personnes qui ont fait un rêve, mais 500 personnes à la fois, tous ensemble, qui ont tous vu Jésus-Christ vivant. Et au moment que cet épître, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Donc, au moment que Paul a écrit cela, la plupart de ces 500 témoins étaient toujours en vie, ils étaient capables de vérifier si c'est vrai ou faux, qu'est-ce que Paul était en train de dire. Imaginez que 500 personnes vont laisser un tel mensonge être propagé. Je crois que non. Et puis, ça va terminer là. Et donc, quelques-uns sont morts, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques. Intéressant parce que Jacques, vous vous rappelez, Jacques fut tué même par l'épée. Jacques, c'était le frère de Jésus. Jacques, c'est celui qui croyait que Jésus était un peu fou au moment donné, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez que quand les frères de Jésus sont venus le chercher parce que, quelque chose marche pas, notre frère est en train de se promener et dit à tout le monde qu'il est Dieu. On va aller le chercher. Mais Jacques, de toute évidence, a vu quelque chose. Il a vu Jésus, son frère, résister d'entre les morts. Et là, plus aucune doute. Amen? Plus aucune doute. Jusqu'au point où il était prêt à donner sa vie comme martyr pour la réalité de la résurrection. Amen? Pensez-vous qu'un homme serait prêt à mourir juste pour garder la réputation de son frère fou? Moi, je sais qu'il a toujours pensé être Dieu et on va juste comme aller avec lui un peu pour garder le nom de la famille. Non. C'est pas ça. Il était prêt à donner sa vie parce que Jésus n'était pas juste son frère dans la chair, mais il est devenu son grand frère spirituel aussi, le premier-né d'entre les morts. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ce qui parle ici, c'est Paul, l'apôtre, autrement Saul de Tarse, celui qui ravageait, persécutait et chassait les chrétiens, et à qui Jésus est apparu en disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Imagine, hein? Probablement, au début, je suis face à face, il est vraiment vivant, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je viens de faire mourir Étienne, je suis en route pour mettre d'autres personnes en prison, et là, il vient de dire que je suis en train de le persécuter. Pourquoi? Parce que vous savez que Jésus est un avec son Église. Et quand on touche un chrétien, quand on touche au corps de Christ, on touche à Jésus. Pourquoi c'est dangereux pour les hommes comme M. Brown? Moi, je prie pour lui, je prie pour son salut. D'écrire les choses de même à propos de Jésus, n'est-ce pas? J'aimerais croire qu'il est juste séduit et aveuglé, et qu'un jour, le voile va être enlevé et qu'il va voir clair que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Donc, trois preuves. Il a accompli de nombreuses prophéties messianiques qui ont été écrites à propos de lui il y a des centaines d'années avant. Il a vécu une vie sans péché, il a opéré des miracles, il a prédit et a accompli sa résurrection, c'est-à-dire que Jésus est vivant. Donc, c'est ça que Jésus a dit. Les prophètes ont parlé, les apôtres ont parlé, les démons ont parlé, Jésus a parlé en disant « Je suis Dieu ». Alors donc, comme on va voir pour terminer aujourd'hui, il n'y a que trois possibilités. Soit Jésus était menteur, et il était vraiment, vraiment un charlatan, on pourrait dire, qui voulait séduire le peuple. Soit il était menteur, il avait un plan méchant pour égarer le peuple de Dieu. et pour ramasser une foule de personnes pour le suivre. Et je pense qu'on a pas mal d'évidence pour dire que Jésus n'était pas menteur. Il était reconnu comme un homme pieux, n'est-ce pas? Et en plus, on a toute l'évidence que qu'est-ce qu'il a dit, il a fait. Numéro 2, où il était maniaque, complètement fou, comme Jacques pensait. Wow, il est tombé sur sa tête, quelque chose s'est passé là. Qu'il n'est pas correct. Tu sais, il a été charpentier, peut-être est-ce qu'il a laissé tomber un marteau sur sa tête, qu'est-ce qui se passe là? Soit il était maniaque, parce qu'il disait, je suis Dieu. Imaginez aujourd'hui, vraiment, imaginez si un de vos voisins commence à dire à tout le monde, je suis la vie, je suis le chemin, et je suis la vérité. Si quelqu'un veut venir au Père, il faut qu'il passe par moi. Imagine, hein? Imagine, quelqu'un qui dit, tu sais quoi? Moi, j'existe même avant la fondation du monde. C'est quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'on penserait, hein? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de gens disent que, tu sais, je crois en Jésus. Je crois qu'il est une grande tête. C'est un bon enseignant, un prophète qui nous a enseigné et nous a montré un bon chemin à suivre. Et que si on suit les principes de Jésus, moi, j'ai des personnes très, très proches à moi, dans ma parenté, que c'est ça qu'ils croient. Je crois en Jésus. Ils vont dire même, je me considère comme chrétien parce que je suis les principes de Jésus. J'aime mon prochain comme moi-même. C'est ça que je fais. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il est Dieu et qu'il est le seul et unique moyen pour aller à Dieu. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que ce raisonnement ne marche pas. Soit il est menteur, parce que laisse-moi vous dire, une bonne personne, une personne morale ne va pas mentir, vous êtes d'accord? Ou il est maniaque, complètement faux, parce qu'il disait, hein, je suis la vie, je suis Dieu, le Père et moi, nous sommes un. Ou, troisième option, il est qui il dit qu'il est. Il est le maître de l'univers. Il est soit menteur, soit maniaque, ou il est maître. Mais on ne peut pas dire qu'il est juste une bonne personne ou un bon prophète, parce qu'une bonne personne ne ment pas et un bon prophète n'est pas un maniaque non plus. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut pas dire, c'est ça, c'est soit il est Dieu ou il est menteur ou maniaque. C'est ça. Alors, et si c'est le cas, vous, ça vous laisse avec deux options. Vous n'avez que deux choix. Si Jésus est vraiment, vraiment le maître de l'univers, le Fils de Dieu, donc vous ne pouvez plus dire, et vos amis ne peuvent plus dire avec intelligence que oui, je crois en Jésus, mais je ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus, mais je ne crois pas qu'il est le seul et unique moyen pour aller au ciel. Soit il est ça, ou il est menteur et maniaque. C'est ça que Jésus a enseigné, c'est ça que Jésus a dit. Il a dit, il faut que tu viennes à moi. Il faut que tu viennes à moi. Je suis, pas un chemin, mais je suis le chemin. Pas une vérité, mais la vérité. Pas une partie de la vie, mais je suis la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et là, la race humaine est face à face avec cela. Ce choix, deux options possibles. Numéro un, vous pouvez le recevoir. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Ou, numéro deux, vous pouvez le rejeter. Et en quelque part, je crois que nous, en tant qu'Église, on a besoin, avec amour, de prêcher la vérité aux gens, de présenter Jésus, pas comme juste une gentille personne qui portait une robe et des sandales. Trop de personnes aujourd'hui, ils ont une image, ils pensent Jésus, ils pensent un homme, un robe, un sandale. Oui, très gentil et très délicat, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, souvent, les films de Jésus, il est très féminin. Est-ce que vous avez remarqué? Souvent, pas toutes, mais il y en a qui sont mieux maintenant, mais surtout si on recule quelques années, c'est toujours, oh oui, oui, oui. Et puis, dans leur tête, c'est ça. Donc, oui, Jésus, je crois, oui, probablement, il existait. Et oui, je crois que Jésus était une bonne personne, un bon prophète, il nous a enseigné les bonnes choses. Non, c'est pas ça. La vérité, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le seul et unique sauveur du monde. Il est soit menteur, soit maniaque, ou il est le maître de l'univers. Et vous avez un choix à faire. Soit de dire, oui, je t'accepte comme mon maître personnel, ou non, je te rejette, je ne veux pas suivre le maître de l'univers. Et je suis convaincu, comme on a vu à travers les semaines, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus, pas parce que l'évidence n'est pas là, parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus. Parce que dès qu'il avoue que oui, Jésus est le Fils de Dieu, ils sont redevables envers lui. Là, il faut qu'ils prennent un choix. Est-ce que je vais vivre pour moi-même ou est-ce que je vais vraiment céder ma vie à lui? Est-ce que je vais lui donner le droit d'être le maître de ma vie? Amen. Donc ce matin, j'espère que vous avez déjà, je crois que la plupart de nous ici, nous avons déjà pris la bonne décision de recevoir Jésus. Mais si Jean-Charles peut venir, on va terminer ce matin en priant pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas encore pris cette décision. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est ici. Il confirme sa parole aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des miracles. Il fait encore tout ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il n'a pas changé. Avec tous les yeux fermés, on va prier ce matin. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour chaque homme et chaque femme ici présent. Seigneur, aide-nous à voir jusqu'à quel point il est essentiel pour nous de saisir la réalité de la divinité de Jésus. Ce n'est pas juste mon petit Jésus, ce n'est pas juste un homme religieux qui se promenait en robe et sandales, mais c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, Créateur de la terre. Toutes choses ont été créées par toi et pour toi, Seigneur. Toutes choses. Cela veut dire que moi aussi, j'ai été créé par toi et pour toi. Et ma responsabilité, c'est de te recevoir, mon Créateur, mon Dieu et mon Maître. Et de céder ma volonté à ta volonté. Et de faire qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vie. De vivre plus pour moi-même, mais de vivre pour toi et pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je crois que même chaque enfant de Dieu, nous qui sommes chrétiens depuis des années déjà, que nous pouvons profiter de ce message aujourd'hui pour avoir la réalité de ta puissance, de ton pouvoir renforcé dans notre cœur et dans notre conscience. Aide-nous à être conscients, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, j'ai vu l'évidence. J'ai vu que Jésus s'est proclamé Dieu. Que Jésus a dit, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Que personne vienne au Père qu'à travers lui. Vous êtes ici ce matin, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous êtes face à face maintenant avec un choix. Est-ce que vous croyez qu'il était menteur? Croyez-vous qu'il était maniaque ou croyez-vous qu'il est vraiment le maître? Si vous croyez qu'il est le maître de l'univers, vous avez un choix à faire. Soit de le recevoir comme votre maître ou de le rejeter. La bonne nouvelle, c'est que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et que tu peux recevoir Jésus par la foi ce matin, même avant de partir. On peut prier une prière et tu peux devenir un homme, une femme nouveau, une belle. Tu peux être né de nouveau par l'Esprit Saint. Jésus va faire de toi une nouvelle création. Les choses anciennes vont être passées, toutes choses vont devenir nouvelles. avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin, j'ai besoin de le recevoir comme maître, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, de le recevoir, pas juste comme sauveur, mais comme maître. Seigneur, votre vie va lui appartenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jésus a dit quelque chose dans sa parole. Il a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, je vais vous demander à faire quelque chose pour prier avec moi et recevoir Jésus. Mais avant de faire ça, j'ai une deuxième invitation. Si vous êtes ici ce matin, vous savez que vous avez déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais vous n'avez jamais reçu qu'est-ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. Comme c'est marqué en Actes 2:4, il faut tous remplis du Saint-Esprit et se mettre à parler une autre langue, comme l'Esprit veut donner de s'exprimer. C'est à travers cette expérience que tu vas pouvoir connaître d'une façon encore plus profonde le Seigneur Jésus. L'Esprit Saint. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il sera venu, il parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à moi et l'annoncera. Donc ce matin, j'ai vraiment à cœur que si vous êtes ici, vous n'avez jamais eu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue. Juste lèvez la main, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir cela ce matin? Il y a même personne en fait, c'est bon. Donc je vais demander à, sur ces deux appels, pour ceux qui veulent venir recevoir la foi, juste venez ici en avant, n'ayez pas peur, on va prier pour vous. On a des personnes formées pour prier avec vous aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour le pas de foi qu'elle fait là? C'est bon. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir sur un de ces deux appels ce matin? Juste venez, soyez pas gênés ce matin. On va faire une prière avec Annick ce matin. J'aimerais que tout le monde fasse cette prière avec nous. Juste répète cette prière après moi. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le maître de tout l'univers. Qu'à partir d'aujourd'hui, il va être mon maître. Je vais vivre pour lui tous les jours de ma vie. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité. Et parce qu'il vit, je vis. Mes péchés sont effacés. Je suis lavé, purifié. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, on a Ginette ici, elle fait partie de notre équipe, elle est préposée à l'hôtel, elle est formée, elle est là pour répondre à tes questions. On a quelque chose qu'on veut te donner aussi. Donc, on a une petite salle de prière juste ici. Elle va prier avec toi pour le baptême du Saint-Esprit aussi. S'il y a quelqu'un d'autre, venez. Donc, ils vont aller dans la salle de prière. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Amen. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Digne de louange. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Le Fils de Dieu! Lèvons-nous, louons-le ce matin. Lèvons-nous, louons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi de gloire. Alléluia, Seigneur. Tu es digne, tu es tout-puissant. Tu es, Seigneur, tu étais et tu seras. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es en vie. Seigneur, tu vis éternellement. Tu vis à nous, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ton amour, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous proclamons ta gloire. Nous célébrons ta vie, ta victoire, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Savez-vous, la parole de Dieu dit ceci, que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Jésus, premier-né de toute la création, il est ici avec nous ce matin. Et on a besoin, je pense qu'on lui doit notre louange, on lui doit notre adoration, on lui doit notre révérence, on lui doit notre reconnaissance, on lui doit, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour la victoire. Oh Seigneur, sois couronné, sois couronné, roi des rois, l'eau qui a dessus. Oh, roi des rois, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire quand nous voyons Jésus? Quand nous serons rendus au ciel, devant le trône de Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Je crois qu'il y aura des moments où on va se prosterner, lancer nos couronnes à ses pieds en disant, c'est toi seul qui es digne de recevoir la gloire. Il y a des moments où on va pousser des cris de joie, on va danser pour joie, pour la victoire, car il a racheté pour Dieu. Alléluia. Il a racheté avec son sang. Il a racheté avec son sang. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Digne de louange, digne de gloire. Oh, de chaque tribu, de chaque nation, de chaque langue, de chaque peuple, il a racheté pour Dieu avec son propre sang. Alléluia. Il a écrasé l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oh, lèvons nos mains, lèvons nos cœurs, lèvons nos voix. Poussons des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On va chanter, on va louer le Seigneur. Mais Jésus, ouh, il est vivant. Et si on peut sauter pour les Canadiens et pousser des cris, quand la hirondelle entre dans le filet, je pense qu'on peut pousser des cris pour notre Sauveur et notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il est digne de gloire. Alléluia. N'oubliez pas, dimanche prochain,
sur l'écran, il y a marqué avec Dieu,
nous ferons
des exploits. Vous avez entendu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Amen.
Vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que sans lui, on ne peut rien, mais avec lui, on fait des exploits. Et la Bible nous dit que le Seigneur travaille avec nous et qu'il confirme la parole par les miracles qui l'accompagnent. Donc, marchez avec la parole et vous ferez les exploits et vous pourrez pousser des cris de joie. Amen. Et sortir dans les rues avec des danses. Amen.